On va continuer ce premier podcast de l'année par un petit débat. Un débat qui n'excédera pas les 10 minutes, je l'espère.
Et j'espère sortez aussi, vos cubes.
J'espère aussi que croit. Tout le monde participera à ce débat. Et le débat est... Il faut que je trouve ma pompe.
Pour ou contre le jeu de société en grande surface, notre hobby doit-il rester confidentiel ou peut-il pénétrer un marché de masse sans perdre de sa qualité?
Alors, quelle question de merde. On dirait Bazinkas du début. Quoi.
Ouais, mais pourquoi nous, c'est 10 minutes.
Pourquoi
nous, c'était une heure, c'est
vrai.
Mais c'était pas plus intéressant que vous. Hein.
En fait, c'est
non, 10 minutes est frustré, tu vois.
C'est un débat qu'on a eu sur Twitter et qui est parti un peu en couille parce qu'on s'était pas.
C'était pas en 10 minutes.
Non, c'était pas. C'était, ça a duré plutôt une demi-journée. On s'était pas accordé sur les termes de grande surface, surface spécialisée ou surface très spécialisée. Et en fin de compte, ça.
Comme quoi, il faut un exil pour faire la définition.
Tout à fait. Ça vient du fait que je suis passé à la grande récré à la Part-Dieu de Lyon et. J'ai vu un magnifique rayon avec plein de choses, dont Seven Wonders, mais aussi du Puerto Rico, du Hank Morpok, du Dominion. Enfin, vraiment.
Putain, il commence à avoir des couilles.
Belle. Mais très très beau rayon, je te montrerai la photo.
Parce que ça faisait un moment que.
C'est Asmodée qui est en place.
Il s'était mis à faire des jeux de société dans tout ce qui était magasin comme ça, la Grande Récré et puis Toys R Us. Mais en général, c'était trois jeux de fait d'outils à côté des grands classiques.
Ça fait des années que Asmodée s'est bien placé dans ces boutiques-là.
Non, mais d'accord, mais est-ce que tu es pour ou contre?
Et pour, bah attends,
juste, par contre, ça coûte situer, plus cher aussi.
Et surtout, les jeux de société ont envahi les Fnac et les deux Citres et les autres enseignes type plutôt librairie.
Oui, mais attention, les Fnac aujourd'hui, pour s'en sortir, ils font des articles de cuisine. Sérieusement.
Oui.
Donc,
tu préfères le jeu de société ou la cuisine?
Bah, ça veut dire que le jeu de société est relégué.
On va revenir au Cooking Mama. Quoi.
Non, les jeux de société, ils les mettent surtout à la Fnac pour Noël, en fait. Comme quoi, c'est un cadeau.
Avec les
cuisines,
c'est devenu un cadeau. Et c'est soldé après.
Mais
la fin.
Ce que j'avais vu à la Fnac, c'était pas très intéressant. C'était
des machins comme ça.
Donc, alors Alexis dit les TF1 Games y sont déjà, en grande surface. Autant y rajouter un peu plus de Gigamic et Asmodée déjà implanté.
Enfin, il y a eu bon truc chez TF1.
Apprendre ou à laisser, par exemple.
Apprendre ou à laisser, je ne sais pas. Bon, mais Krilin, alors c'est quoi ton avis? Enfin, c'est bien ou c'est pas bien?
Moi, je suis pas contre. Je suis de l'avis de qui est-ce qui a quoi parlé.
Mais t'es pas obligé de rallier à l'avis de quelqu'un. Tu peux
non, tiens, je suis.
Tu sais, c'est le mec, écoute, il a toujours un avis tranché. Ouais. Ouais, ça me dérange pas.
Ouais, ça me fait.
J'ai un avis tranché. J'ai dit que j'étais pas contre.
On s'en fiche, en fait.
Non, je suis d'accord sur le fait que peut-être que la ménagère, au lieu d'acheter un TF1 Game, elle va acheter un truc bien.
Ah, c'est moi qui.
Parce que. Ah, c'est toi, pardon.
J'ai pas l'habitude qu'il y ait
une bonne idée. La chose est que les parents, de toute façon, ils vont pas plus y jouer, de même qu'ils jouaient pas à la bonne paye. Et les gamins, peut-être que.
Détrompe-toi, les parents deviennent de plus en plus joueurs, les sondages le montrent, les gens jouent beaucoup avec leurs enfants. Ma fille, même maintenant pour son anniversaire, des copains commencent à lui offrir des jeux. Bon, il s'avère qu'en général, c'est des jeux qu'on a déjà, mais c'est pas grave, ils refont un échange. Mais. Le jeu de société devient un cadeau même parmi les enfants. Donc
c'est bien. Et donc, même si les enfants, eux, ils vont lire les règles et je pense qu'ils sont plus ouverts que leurs parents sur un jeu soi-disant complexe. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Ça me dérange pas.
Est-ce que le fait de retrouver des gens en grande surface, ça tue pas les commerces de proximité?
Ah oui, mais bon, Amazon a tué la Fnac soi-disant, donc on va pas refaire les débats.
Ils ont tué Virgin. Hein.
On change de débat là. Hein.
Pour rappel, juste Virgin a dit en 2005 que ceux qui les tueraient c'était Universal Music. Et donc voilà. Bravo, et ils n'ont pas parlé d'Amazon.
Didier 69 était assez content de ça pour intéresser les enfants aux jeux de société. C'est bien d'avoir Barbie et Playmobil à côté des jeux de société de leur âge. Merci Abba. Effectivement, on a vu Asmodée en fait a fait pareil avec Picplume et Picprune.
Donc, c'est Gigamic.
Gigamic, j'ai dit quoi?
Asmodée.
C'est Gigamic, donc Gigamic a fait ça. Par contre, après, il y a des réactions qui sont un peu plus, entre guillemets, égoïstes en disant « je veux pas que ça devienne banal, je veux pas que tout le monde joue au jeu de société.
Bon, » de toute façon, tout le monde jouera pas au même jeu de société.
Est-ce que c'est pas un syndrome geek avec le fait qu'on aime bien avoir son pré-carré et
Ils joueront autre chose. Les autres,
Et puis t'es pas un trou quand t'as pas ton jeu. Non mais un vrai genre, ça y est, je suis estampillé geek de premier niveau parce que je suis allé acheter mon jeu de société dans la boutique qui s'y connaît et voilà, c'est un peu le même débat qu'on a à peu près partout. Donc.
Non et puis je pense que de toute façon on n'aura pas demain un Terra Mystica à la Carrefour.
Hein. Pas Carrefour, ouais, mais tu,
fin, Puerto Rico, il fait, ça fait combien, enfin c'est un jeu qui a combien d'années derrière
Puerto Rico, c'est 10 ans.
C'est énorme, donc enfin c'est une référence ludique d'entrée de enfin de gateway game, mais on en reparlera.
Porto, c'est plus qu'un gateway.
Et ouais. tu crois pas quand même que, mais le débat de, alors c'était Blurglurglu là qui
Blurglurglu.
Il dit, je préfère peu mais de qualité. La masse entraîne un nivellement par le bas. Je ne suis pas pour la démocratisation. Elle a beaucoup de choses. Hein. Je ne suis pas pour la démocratisation à outrance de mes loisirs à des prix indécents, genre 120% du prix éditeur.
On s'en fiche parce que ça c'est le grand public. Nous, oui. On saura toujours où on peut
c'est
acheter
ça.
Un jeu.
Et moi, ce que j'ai répondu, c'est la ménagère de 50 ans, moins de 50 ans, elle va acheter un jeu. Moi, je vais en acheter 3 ou 4, et moi, je vais faire attention, mais elle pas.
On s'en fiche. L'argent, en s'en rendant dans les caisses des éditeurs, les éditeurs, ça leur permettra, comme dans la musique, de prendre des risques pour d'autres jeux.
Imagine quand même clairement que le si par exemple Seven Wonders a un très gros succès.
Comment ça, dans, si
dans, non, mais je veux dire, un vrai
imaginons.
Un succès.
Imaginons qu'elle devienne un prix, tu sais.
Qui devienne genre le Monopoly, le nouveau Monopoly. Bah, tu vas avoir 50 ersatz du Seven Wonders qui vont s'appeler, je sais pas,
8 Wonders,
les 8 6 merveilles, et demi Wonders, etc. Et puis voilà, et ça va être une ressucée, et ça sera ça qui deviendra le jeu à fuir.
Par Antoine Bozo.
Oui, Krillin.
De toute façon, il faut être honnête, y a déjà plein de jeux qui sortent et ça devient complètement. Enfin, ça devient difficile de trouver des bons jeux tellement il y a plein de daubes qui. On est envahi par les jeux de société. Le jeu s'est déjà démocratisé.
C'est pas compliqué.
Et il sait. Oui, il suffit d'écouter Proxy Jeux.
Bah, oui, voilà, notre travail jeu, sera d'autant plus important de guider les gens vers les bons jeux.
Tu rigoles, ça, la production du jeu, plus il y a de jeux, plus il y a de mauvais. Il y a beaucoup de mauvais jeux, mais il y a aussi plus de bons jeux. Moi,
oui,
cette année,
bien sûr, mais c'est la même.
Plus de bons jeux que les autres années.
Non.
En tout cas, c'est déjà arrivé le fait que le jeu soit démocratisé. Donc, c'est pas le fait que ça rentre dans les.
Je suis pas d'accord. C'est pas démocratisé le jeu. Moi, on a vendu notre maison. Il y a des gens qui sont venus. Ils ont regardé mon bureau. Ils ont fait ah, c'est la joujoutèque de Villeurbanne. Non, c'est juste mon
mais
bureau.
Mais c'est
quoi.
Parce que t'as des amis qui sont cons.
C'est des acheteurs.
C'est des acheteurs.
Non, il y a quand même.
Non, c'est des lambda, c'est le commun du mortel.
Le jeu de société.
Ceux-là, on va les subir toute notre vie.
C'est pas démocratisé, c'est ce que je veux dire.
Ah, mais le jeu de société, il a un obstacle quand même pour se démocratiser au sens le plus large. Ça s'appelle la règle du jeu. Il faut la lire. Et quand il y a une page, ça va. Et encore déjà, les gens, quand elle est recto verso, ils lisent pas. Alors, je te dis pas quand on se tape des règles comme Terra Mystica ou qui nous font plaisir
non,
à
le problème, c'est quand il y a une
vidéo,
règle
mais...
du jeu.
Ouais, déjà, ils les lisent pas de toute façon.
Déjà, il faut pas de règles du jeu. Le meilleur jeu de société, c'est
l'anarchie.
Pas de règles du jeu.
Anarchie.
Non, mais c'est le jeu de société.
Fin Noël va me sortir un jeu. Anarchie. Oui, c'est vrai, les gens qui jouent au Monopoly n'ont jamais lu la règle,
c'est
en fait.
Pour ça.
Les gens ne lisent pas la règle.
Voilà, absolument. D'ailleurs, on y joue très mal.
Non, mais je pense qu'il y aura de toute façon toujours des éditeurs pour faire des bons jeux. Enfin, on parlait par exemple.
J'espère.
Tu disais qu'Istari, t'achetais quasiment les 3/4 de leur production, même à l'aveugle, parce qu'au pire, tu retrouverais pour
non,
les vendre.
Pas à l'aveugle, hein.
Il y aura toujours un vivier de gens qui s'intéresseront aux vrais jeux et qui prendront le temps de faire une vraie sélection. Et voilà. Et après la question aussi, c'est quand Asmodée refait Hotel, qui pour moi, a priori, est une grosse bouse, ça permet. Mais aussi de financer le reste et c'est très compliqué parce que d'un point de vue purement ludique c'est un choix stratégique qui semble complètement aberrant pour le gros joueur. Maintenant, d'un point de vue financier, ça permet peut-être de financer Space Cowboy. Après, j'ai pas les détails, mais voilà.
Faut vous rappeler quand on avait interviewé Croc avec Olivier l'année dernière, qu'il expliquait bien que pour que des petits jeux comme moi, je me plaignais du fait que Zombie, la blonde, la brute et le truand n'étaient pas réédités, et il disait oui, mais Zombie, la blonde, la brute et le truand, c'était 40 000 jeux, là où des jeux comme Jungle Speed et compagnie, ils en vendaient 40 000 par semaine. Donc faut pas s'étonner non plus qu'ils refassent des jeux de merde. Et comme tu disais, c'est une question de financement.
Et regardez Ravensburger France, ils vendent plus. Il y a plein de jeux qui sortent Indigo et choses comme ça, et ces jeux-là n'arrivent jamais en France parce qu'ils estiment que le marché n'est pas bon pour eux. Ils vendent pas assez de centaines de milliers d'exemplaires pour les sortir là.
Après, il y avait le problème du conseil en grande surface.
De quoi ?
Du conseil.
Ah, mais tu n'as pas en grande surface pour du conseil ?
Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des petites structures où tu n'as pas de conseil non plus. Tu as des boutiques spécialisées où tu.
Il y a des petits jeux pour ça, non ?
Moi, c'est moi qui, dis à la fille de la boutique à côté de chez moi ce qu'il faut qu'elle achète.
Et c'est une petite, c'est une boutique spécialisée.
C'est une petite structure, mais à l'origine, elle est plus dans le jeu pour enfants.
Ouais, j'en bois.
Et petit à petit, elle s'est mise au jeu pour tout le monde, au Gateway. Et Gateway. Et ensuite, maintenant, elle s'est mise au gros jeu de gamer.
Ok. Dédé.
Ouais, c'est Bruno Catala qui disait sur Twitter, qui disait qu'il était dans une boutique, qu'on lui a expliqué un de ses jeux, mais avec une règle fausse, quoi.
Bah, il avait qu'à écrire une règle plus simple.
En une page.
C'est qu'il y avait une règle en trop.
Ok, on va faire juste un dernier tour de table. Krillin, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ?
Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si en effet. Il y a des risques comme le fait que ensuite les petites structures meurent et qu'on se retrouve que avec des jeux par les gros éditeurs à 130% du prix. C'est un risque, mais je pense que globalement le risque est faible et le gain est plus grand.
Alexis ?
Bah de toute façon, les gens qui vont acheter des jeux de société à Carrefour, ils vont pas les acheter en boutique spécialisée, donc je pense que ça tuera pas la petite boutique. Mmh. Ce qui peut plus la tuer, c'est les boutiques sur internet qui vont vous brader les jeux à prix cassé. Et moi personnellement, je sais que j'achète beaucoup plus de jeux sur internet qu'en boutique, et c'est peut-être un tort, mais voilà. Enfin, je pense que c'est le risque, il est plus là en termes de, enfin pour ce qui est de la survie des petites boutiques spécialisées.
David.
Bah moi je suis pour, parce que plus il y a de jeux, plus il y aura des mauvais jeux, mais il y aura aussi beaucoup plus de bons jeux, quoi. Donc
Dédé aime les mauvais jeux.
Non, mais non,
il y croit en la proportion de bons jeux.
Bah oui, bien sûr, tu regardes cette année.
La proportion de bons jeux.
Clayne.
Bah, je rejoins assez Krillin et Alexis en fait sur la question, parce que je suis assez d'accord sur le fait que c'est bien qu'il y ait plus de jeux dans l'absolu. C'est comme quand tu veux t'acheter une paire de pompes, tu vas d'abord les essayer en magasin et aller voir après si elles sont pas moins chères sur internet. Donc c'est là où
c'est dégueulasse. Tu peux tout faire en même temps directement dans le magasin.
Oui, non, mais voilà, tu fais ça directement, mais
et tu fais ça toi.
Avec ton smartphone, t'es pas obligé de quitter le magasin pour les acheter.
Non, mais c'est le principe, ouais, et c'est aussi un problème de distribution et de vente. Hein. Et ça, c'est un, à mon sens un autre débat. Mais
Oui, Fendouen. Qu'est-ce que je veux dire déjà?
Ouais, moi non plus, je pense pas que ça soit un problème au final. Je pense que justement, si ça peut éduquer les gens et leur faire apprendre à lire les règles du jeu. Moi, je vois pas où est le problème.
Je pense pas qu'on leur fera lire.
Moi, Jérémy ?
Je pense un peu plutôt, mon ami, on va être comme le marché BD qui s'est formaté avec le temps. Le marché BD a explosé. Il y a beaucoup de productions qui sont purement formatées parce que ça doit être des sagas sur tel thème, machin, 3-4 albums terminés. Ils regardent pas le reste. Mais c'est pas grave, il y a aussi tout le reste de la BD qui est très intéressant et qui est par derrière. Ce sera pareil pour les jeux.
Et c'est vrai que si on se tape un éditeur comme Soleil dans le monde du jeu de société, putain, on va douiller.
Ouais, mais peu importe, je veux dire, après les gens font tri.
Alors, moi qui ne connais pas le.
L'Enfeu, c'était compagnie.
Et alors,
ouais, alors l'Enfeust, c'était pas trop mal encore, mais
j'ai dit compagnie.
Soleil, c'est une meuf à moitié à poil, ouais, sur un dragon avec une épée.
C'est pas mal,
et
ça, non, c'est super.
Ils ont des très très belles couvertures.
BD, non ?
Par contre, le dessin est moche et le scénario est inexistant. Ça vaut mimimati, quoi.
Mais tu sais, dans les jeux maintenant, par rapport à il y a 10 ans, on pouvait jouer à tout ce qui sortait, on n'en peut pas. Et il y a déjà, moi je trouve qu'il y a déjà une production de masse de trucs, les éditeurs les sortent juste pour remplir les trous. Abba, c'est les premiers à le faire depuis 10 ans de toute façon, mais
ouais,
on a déjà cette production de masse pour moi, du coup au final je filtre déjà énormément, quoi.
Alors j'ai quand même donné mon avis, pense que les petites boutiques, si elles meurent, c'est pas parce que il y aura des jeux en grande surface, parce qu'elles n'auront pas su s'adapter. On a une boutique à Lyon qui s'appelle Trollune qui est extraordinaire, où on trouve de tout et qui est plus cher qu'ailleurs, et à mon avis ils ne mourront jamais parce qu'ils ont le service.
T'es sûr que t'as le jeu chez eux.
Et puis le prix n'est pas un problème en plus. Et puis ils animent le jeu de société sur Lyon, c'est eux qui sont en partie dans l'organisation de Octogone, donc voilà. Et je pense que c'est une très très bonne chose de voir des jeux de société modernes et intéressants en grande surface, parce que ils vont être achetés par des gens et il faut que ça se développe.
Et puis si les gens ils les aiment pas, ils les revendront au marché aux puces pour pas cher.
Et toi, tu pourras les racheter pas cher.
On pourra les racheter pas cher.
Ok, ben merci beaucoup. Nous réagissez sur à ce débat. Dites-nous si vous êtes d'accord, si vous voulez que le jeu de société reste un hobby confidentiel, que vous soyez les seuls à connaître les règles de 25 pages de je ne sais quel jeu.
Je pense qu'on ne fait pas le podcast pour ça.
Mais non, mais ça serait, après, c'est les gens qui nous écoutent, peut-être, ils n'ont pas envie que. Voilà. Une petite toute dernière rubrique sur les jeux auxquels vous jouez en ce moment.
Cet été, en général.
Auxquels vous avez joué cet été. Alors je vais commencer par Fendwell, parce que lui, je sais qu'il a
une
des
sélection.
Choses à
me
dire. Au hasard, toi.
On a, je précise quand même, pour le timing, on a une demi-heure, trois quarts d'heure grand max.
Alors on va vite. Donc j'ai joué à l'extension de merde.
Alors c'est un jeu de merde, c'est extension de merde.
Ça va être difficile là.
Donc j'ai joué à l'extension de Descendance qui s'appelle l'auberge.
Une bière.
Exactement. Ça va rajouter une partie du plateau avec une brasserie. On pourra produire de la bière et on pourra également recruter des personnalités dans l'auberge. Donc, alors je trouve que c'est une très très bonne extension. J'ai vraiment apprécié le fait d'avoir cette nouvelle possibilité. Ça rend le jeu plus tendu. D'ailleurs, son extension porte bien le nom de l'extension sous pression.
Jeu de mots.
Notamment pour le fait que, comme ça rajoute une zone, on a encore plus de choses à faire et on a finalement pas beaucoup plus de possibilités avec cette extension. Donc, ça rend quelque chose de très tendu et encore plus stratégique parce qu'on va pouvoir. On va pouvoir mieux terminer potentiellement la partie plus vite, etc. Donc voilà, je recommande donc vivement. J'ai fait une partie à 2 et à 5 joueurs et dans les deux cas, c'est assez méchant, donc j'aime beaucoup.
Donc Descendance, l'extension, c'est pour 2 à 5 personnes, à peu près 20€. J'espère que vous le trouverez parce qu'il est en rupture dans certaines boutiques, toujours Inca et Marcus Brand chez Gigamic.
Alors ensuite, j'ai fait donc du jeu de rôle, j'ai joué à Dungeon World. Dungeon World, c'est un jeu de rôle de type Donjon et Dragon, mais facile pour les débutants ou alors ceux qui n'ont pas le temps.
Donjon et Dragon pour les nuls.
Tu parles en rime.
Pourquoi
Pour les flemmards, c'est ça?
Pour les flemmards ou pour les... Voilà. Alors pourquoi en fait, le MJ a juste besoin d'avoir une ligne de scénario, c'est-à-dire il sait vaguement qu'est-ce qui va se passer durant cette session. Par exemple, juste un grand méchant. Je vais t'expliquer. En fait, juste un grand méchant, par exemple, et puis on le rencontre, il y a une petite négociation, et puis ça part en vrille, et puis il y a une grosse.
Ça fait plus d'une ligne, ça.
Anyway, t'es même pas obligé d'avoir.
So what?
Laisse-le finir, il a pas fini ses notes.
Je t'explique. En fait,
c'est la fin du tour.
J'ai participé à ce jeu de rôle sans connaître aucune règle. On m'a juste envoyé une fiche de personnage. Alors la fiche de personnage, elle vient avec quoi? Elle vient avec une feuille avec tous les pouvoirs du personnage. Elle vient également avec une feuille qui permet la création du personnage en 10 étapes. Donc en gros, en 10 minutes, j'avais créé mon personnage bien carré. Alors par exemple, j'ai fait un voleur qui était chaotique parce que je suis. Ça me plaisait bien.
Parce que je suis chaotique et voleur.
et en fait, le MJ nous commence la partie de la façon suivante. Il nous dit, alors voilà, vous êtes dans une auberge et des personnes mal intentionnées arrivent vers vous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce que vous connaissez de l'univers? Et à partir de ce moment-là, en fonction du background de nos personnages, et en fonction de qu'on a réfléchi vraiment en 5 minutes, on a imaginé et d'un ce qui allait arriver présentement à nos personnages, mais également on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'en gros il nous a demandé qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre monde.
Ouais, c'est ça, c'est la narration partagée
monde,
en fait.
Exactement, c'est de la narration partagée. C'est-à-dire que notre monde n'était pas différent d'autres mondes ou alors ressemblant. C'est-à-dire qu'on a imaginé un monde avec deux lunes qui, lorsqu'elles arrivent à des certaines... Alors, c'est pas très original, on m'a expliqué ça. qui, lorsqu'elles arrivent à être alignées les unes avec les autres, provoquent des grandes marées et fait qu'on a des phases où il n'y a pas d'eau du tout sur la Terre. Donc on peut se déplacer plus facilement, et sinon un monde extrêmement marécageux. Et voilà, tel autre personnage avait croyait en un dieu, et c'est le MJ qui lui a demandé, bah, écoute, tu crois en quel dieu? Est-ce que tu crois en plusieurs dieux, en un seul dieu? Quelles sont les valeurs de ce dieu? Est-ce que tu les respectes? De quelle façon? Etc. Et en fait, l'univers se construit au fur et à mesure. Et à la fin de la session, donc il nous a donné un papier qui récapitule absolument toutes ces choses que nous avons inventées, en nous disant bien, voilà, si vous avez des choses de plus à noter sur l'univers, notez-les si on en a parlé durant la session, mais ne les notez pas si c'est des idées pour plus tard. On les rajoutera au fur et à mesure et nous découvrirons l'univers ensemble. Et c'est vraiment ça, c'est le MJ partage la création de l'univers avec les joueurs.
À ce moment-là, est-ce que c'est vraiment un MJ? Parce que
ce que
tu m'en décris, c'est une secrétaire, en fait.
Non, mais il faut quand même quelqu'un pour avoir le dernier mot, mon avis.
Donc il fait un trop conclu.
Très bonne remarque.
Ah non.
Pas du tout. Il ne fait pas un trop conclusion.
Il donne la parole aux joueurs.
Il donne la parole aux joueurs, mais ça va être, par exemple, j'arrive dans une pièce, qu'est-ce que je vais voir autour de moi? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Lui, il va quand même pouvoir réagir aux joueurs. C'est-à-dire que, alors, ce jeu de rôle, en fait, est très simple. C'est-à-dire que, en tant que voleur, j'avais un certain nombre d'actions que je pouvais faire. Il y a des actions qui sont propres aux voleurs, exactement. Il y a des actions qui sont générales. Et le MJ, en fonction de mon lancer de dés, alors c'est très simple et très basique niveau lancer de dés, je lance un dé, soit j'ai une réussite critique qui me donne certains avantages, soit j'ai un échec. Soit j'ai quelque chose entre les deux, et quelque chose entre les deux donne le droit au MJ d'avoir une réponse. Et il y a des listes qui existent, et le MJ peut choisir parmi ces listes. S'il n'a pas forcément d'idées, il peut donner évidemment des idées qui lui viennent à lui, mais ensuite, il peut parfaitement choisir dans cette liste. Il a déjà des réponses préétablies. Bah, par exemple, vous avez invoqué les esprits, bah, pas de bol, comme vous n'avez pas fait une réussite critique, vous aurez un mauvais esprit qui va arriver et qui va vous sauter dessus, etc. Mais c'est relativement simple, en fait.
Donc, en gros, c'est moitié prescrit, moitié imaginaire. Quoi.
Exactement.
Et c'est quoi l'intérêt de masteriser un truc comme ça?
Franchement, l'intérêt n'est clairement pas destiné aux joueurs ou aux personnes qui font du jeu de rôle, tu vois, depuis longtemps, qui ont de la bouteille, qui savent comment réagir, etc. Mais vraiment, pour un débutant, l'énorme intérêt, c'est que moi, on m'a envoyé mes trois petites feuilles là, par mail. Et ensuite, avec un hangout, on pouvait jouer tout de suite. Tu vois, j'avais pas à me plonger dans l'univers. L'univers, c'est moi. C'est moi qui l'ai créé, tu vois, en tant que joueur. Et mon personnage est né peut-être à tel endroit, dans telle ville, mais c'est moi qui vais imaginer cette ville. Donc au final, il n'y a pas de...
Bah, c'est moyen raccord avec ce que tu disais tout à l'heure, de t'as un lot d'actions précises et des compétences précises, parce que tu peux t'inventer des trucs et subitement, ton historique ne collera pas à ta fiche. Un genre de je suis né à tel endroit, ça tombe bien, c'est une planète radioactive, et d'ailleurs je clique des doigts,
mais non, tu peux pas.
Je fais des trucs radioactifs. Voilà, tu donc c'est là où j'ai du mal à comprendre la balance entre les deux.
Non, les...
Alors on va peut-être passer, parce que c'est intéressant, mais en fin de compte, c'est pas le.
C'est intéressant, mais tais-toi.
Le timing est serré.
Voilà. On parlera à un moment donné du jeu de rôle narratif. Je pense que ça permet justement de mettre un pas dans un jeu de rôle où tout le monde se partage la narration. T'as pas justement plus de maître du jeu en fin de compte. Mais bon, alors on va juste en rester là, puis on reprendra ce débat un peu plus tard parce que je pense qu'il est intéressant.
Alors juste pour info, il existe en France avec une boîte rouge. Alors la boîte rouge possède à peu près tout sauf 4 classes de personnages, et il sortirait une boîte bleue en fin d'année ou l'année prochaine qui contiendrait toutes les classes de personnages. Et il existe des traductions des classes de personnages supplémentaires qui sont disponibles sur Internet si jamais il vous en manque, mais enfin, voilà. L'intérêt, c'est vraiment dans la simplicité de ce jeu de rôle.
Alors, Dungeon World, c'est un jeu de Greg Pogorzelski et Adam Coble et Sage Latora, qui est paru chez Narrativist pour 2 à 5 aventuriers, 2-3 heures pour un scénario et un peu plus de 50€.
Ensuite, j'ai joué à Puerto Rico Deluxe, donc le jeu connu de Andreas Seyfarth. Donc je l'ai acheté. Le seul truc qui est super énervant, c'est que cette édition est pété de faute d'orthographe. C'est-à-dire que sur la couverture, il y a une faute d'orthographe. Voilà, donc c'est tout simple.
Ça t'arrive jamais d'oublier les
c'est
S
Puertrico.
Je sais pas, mais c'est.
Non, c'est le extension.
Alors je l'ai acheté, mais j'ai pas vu.
C'est les extensions sans S.
Deux extensions sans S, donc voilà. C'est juste un peu honteux.
Mais sur le reste du
matériel est super beau. Ouais, quoi.
C'est du carton épais.
C'est du carton super épais, vraiment 3 mm ou 4 mm. Tu vois, un truc vraiment. 3 ou 4 mm, c'est vraiment très agréable. On dirait du. Le Space Hulk V3 peut bien se tenir. Il y a deux extensions qui sont incluses dedans. Il y a des piécettes en métal. Donc la boîte pèse le poids d'un âne mort, mais on est heureux parce que.
Par contre, du coup, il n'y a plus d'insert, etc., pour ranger comme il y avait dans le précédent. Ouais. Après, à vous de voir comment vous rangez votre matos.
Ensuite, il faut des petits sachets.
Ouais. Ouais, excellent jeu et très belle.
La version de luxe est quand même en tête des ventes sur Philibert. Ça veut dire que ça doit bien se vendre auprès des tous les joueurs.
Moi, je suis pro... 70 euros. Ouais.
Mais moi, j'ai renouvelé mon Puerto Rico qui a 10 ans parce qu'en allemand, quoi. J'ai le besoin d'y profiter. Hein.
C'est ça.
Les bateaux sont super beaux.
C'est super beau.
En fait, il est au moins en graphisme un peu plus au goût du joueur que ce qu'il y avait avant. Quoi.
Donc,
ils ont renommé les rôles aussi. Ils leur ont donné d'autres.
Ils ont remis en fait les noms, on va dire, pour les joueurs comme moi qui jouaient avec la version allemande. Les premiers noms qu'ils avaient utilisés pour les traductions pour les Français quand on jouait avec la version allemande et que Tilsit n'avait pas gardé ou Philosophia.
Alors, il paraît que c'est aussi conforme française. Avec peut-être une application iPhone.
Ou peut-être l'application iPhone, ouais, effectivement.
Probable.
Enfin, je regarde.
Donc, Andreas Seyfarth, c'est l'auteur de Puerto Rico Deluxe qui est sorti en 2013 chez Istari. Distribué par Millennium, de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, 90 minutes, 65-70 euros, effectivement. Mais ça en vaut vraiment le coup. Tu as joué à Netrunner aussi, je crois.
Il nous reste 20 minutes.
Ouais, j'ai joué à Netrunner. Donc, Netrunner, j'aime beaucoup. C'est un jeu.
Enfin, les autres, vous pouvez dire ce que vous en pensez aussi. Hein. Puerto Rico, t'as pas joué à Puerto Rico ?
Si, j'ai joué à Puerto Rico.
Tu me feras 3 parties, s'il te plaît.
J'ai joué à Puerto Rico, mais pas à l'édition de luxe, donc je ne me prononcerai pas sur les fautes d'orthographe et de grammaire.
C'était en notation, c'est peut-être bon.
Netrunner.
Netrunner, alors on me l'a vendu, Jérémy me l'a vendu comme le jeu du siècle, etc. Enfin bon, plusieurs anciens joueurs ont vraiment, vraiment adoré et m'ont convaincu de le prendre.
Et ça l'est.
Et effectivement, c'est pas mal du tout.
C'était le jeu du siècle dernier, hein, par contre. Alors, t'avais pas dit, mais...
C'est le jeu du siècle dernier, oui. Alors, la mécanique est asymétrique. C'est un vrai jeu de cartes, mais on va dire où on va se développer. C'est-à-dire qu'à Magic, on va poser 3 créatures et puis on va terminer la partie comme ça. Je sais que je vais subir l'ire des fans de Magic. Alors, ce jeu-là se joue vraiment plus en compter 45 minutes, une heure la partie. On a vraiment une vraie construction de son tableau de bord, entre guillemets.
Quoi ?
Ouais, ce que j'appelle mon tableau de bord. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es un runner, tu vas avoir différents programmes.
Ta stratégie, il faut runner rapidement. Voilà.
Tu vas avoir.
Toi, t'es du genre. T'attends d'être blindé, quoi. T'as pas les couilles, tu vas pas, quoi.
Ça dépend des.
Faut y aller, faut bluffer.
Ça dépend des runners. Et, pareil, la corporation donc, qui va mettre en place des serveurs, ça peut prendre du temps. On peut faire le serveur parfait qui va permettre de terminer en quelques tours après. Voilà. Mais c'est très savoureux comme façon de fonctionner. On prend vraiment le temps de développer une stratégie. Le rythme est assez lent, donc ça change un petit peu par rapport à Magic. Oui, c'est ça. Ça te fait un jeu de cartes qui se joue en 40 minutes, une heure.
Moi, j'ai vu des parties en 10 minutes, c'était fini.
Dominion. Je pense que si tu connais les cartes, alors moi, j'en suis encore au début. J'ai fait moins d'une dizaine de parties et je dois quand même être à la dizaine. Et le fait qu'on découvre pour le moment les cartes, qu'à son tour on ait 4 actions ou 3 actions à faire, ça peut prendre un certain temps.
Et tu crées, tu builds ou pas ?
Et je n'en suis pas encore à builder. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. La boîte de base propose donc 3 différents runners, et donc 3 personnes d'une faction et 4 corpos différentes. Ce qui fait que si vous faites rien que, on va dire, une partie... Alors, comme c'est vraiment, vraiment asymétrique, on a vraiment une vraie différence entre le runner et à jouer le runner et à jouer la corpo. Donc, si je fais 3 x 4, 12 x 2, parce qu'on va jouer un match aller, un match retour, on va dire, on peut jouer 24 parties vraiment. Avec la boîte de base où on jouera vraiment des choses extrêmement, complètement différentes, chaque runner ayant ses particularités et chaque corporation ayant ses particularités. Mais léger reproche, c'est l'iconographie qui n'est pas évidente.
Quoi ?
l'iconographie n'est pas évidente. Okay. Par exemple, les coups des cartes vont être marqués parfois en haut à droite, parfois en haut à gauche, parfois avec un fond noir, parfois avec un fond blanc, parfois avec un symbole rond noir. Enfin bon, en gros, on aura des symboles pour les coups qui vont être différents en fonction des types de cartes. Et accrochez-vous pour les types de cartes, il y en a quelque chose comme 5 ou 6 types de cartes différents par faction. Et en plus, on s'amuse à nommer, par exemple, la défausse, s'appelle donc le tas chez le runner, les archives chez la corpo, et c'est pareil pour à peu près toutes les cartes.
Faut se projeter.
C'est assez. Alors, c'est bien pour l'ambiance, ça sert le thème, ça c'est très bien. En revanche, sincèrement, au début, pour votre première partie, vous allez un petit peu peut-être vous dire, alors c'est quoi le tas, et avoir la règle du jeu à côté. Faut pas avoir peur, c'est un jeu pour vrai joueur, c'est pas un jeu pour si vous voulez commencer.
Ça pas, on ne pas la grande récré.
Non, mais c'est clair que Netrunner, c'est il y a quand même en plus des mécaniques du jeu, il y a quand même une stratégie de run où c'est ce qu'on dit dans l'autre fois. C'est tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, par contre, est-ce que tu as joué avec les extensions?
J'ai pas encore joué avec les extensions, je les ai toutes plastifiées et toutes regardées. Alors je craignais en fait que les extensions soient déséquilibrées par rapport au jeu de base et que par exemple on ait des cartes qui soient outrageusement plus puissantes dans les extensions pour forcer à les acheter. La vérité, c'est que en fait, alors je les ai pas encore testées vraiment, mais ça m'a l'air équilibré, c'est-à-dire que les cartes qui seraient un peu plus fortes ont un coût supérieur, donc ça me semble assez équilibré. Ensuite, c'est à tester plus en détail.
Ok, donc Netrunner, c'est un jeu de Richard Garfield et Lucas Lettinger, reparu en 2013.
Enfin, Lucas Lettinger, je pense qu'il est passé derrière parce que
oui.
C'est leur own traitement en 2013.
À partir de 14 ans, et je pense que c'est difficile de jouer à moins. 50 minutes, il donne comme durée de partie, 35 euros pour la boîte de base et 15 euros pour les extensions. Il y en a 6 sur un set complet et il y a déjà.
Il y a 4 extensions.
Non, 6.
Non, mais en français, il y en a 4 qui sont sorties.
En français, il y en a 4.
Dans un cycle, il y en a 6.
Ah oui, voilà. Non, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a 4 extensions plus une grosse boîte qui est.
Moi, j'en ai déjà acheté 5. Donc,
comment c'est possible?
En anglais,
il y en a 6.
En anglais.
D'accord. Non, mais je te dis, moi, édité en français, il y en a 4.
Édité en français, il y en a encore que 4.
Mais vous pouvez arrêter de vous engueuler parce que vous êtes d'accord.
On passe.
Krilin, t'as un jeu dont tu veux nous parler?
Vu qu'on n'est pas limité au jeu de plateau, vu qu'il veut parler de Magic, en ce moment, je joue beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelle FTL, Faster Than Light. J'en parle parce qu'il est vraiment bien. C'est un jeu qui est... qui pourrait être adapté en jeu de plateau, enfin mis à part le côté random, ou quoi que ça pourrait être faisable. Enfin, c'est vraiment un bon jeu à l'ancienne. Comment il s'appelle tous ces jeux où tu avais une chance de claquer à chaque nouvelle rencontre
Un jeu de merde.
Non, les vieux jeux de où on se baladait dans les donjons, en texte. Bon, là il y a des images, mais vraiment Faster Than Light, très très bon jeu à l'ancienne.
T'expliques pas du tout le
très
principe.
Dur. Vous avez pas expliqué ni Netrunner ni Puerto Rico.
Ah, il a déjà expliqué. Souvent.
En fait, c'est des jeux assez connus. Mais Faster
Than
Light,
Puerto Rico, c'est juste l'un des meilleurs jeux du monde, mais vraiment, en fait.
Ouais.
Un jeu à rôle et on a dû en parler, sinon de toute façon, on en parlera. Il faut gueuler, et puis on parlera de Puerto Rico et Netrunner. On a fait quand même un numéro dessus presque. Donc, d'accord. Faut nous écouter.
Donc Faster Than Light, on commande un vaisseau spatial qui doit aller à l'autre bout de la galaxie. Il est poursuivi par les méchants rebelles et lui, il joue pour la corporation. Donc on a des personnages à l'intérieur et on va avoir en gros 7 systèmes stellaires à traverser où il y a des beacons, donc un ensemble...
Des balises,
voilà. Donc on va aller de balise en balise et il y a à chaque fois des rencontres aléatoires, parfois bonnes, parfois mauvaises, sachant que tout est aléatoire. Donc un événement aléatoire qui va vous avoir été favorable la fois précédente risque peut-être d'être mauvais cette fois. Typiquement, on vous propose d'aller, de participer à une étude sur les voyages stellaires. La première fois, les gens sont contents et vous donnent de l'argent. La deuxième fois, en fait, c'était un piège. Et donc, vous vous retrouvez avec des salopards qui sont montés à l'intérieur de votre vaisseau et qui tirent dans tous les sens. Vraiment dur, pas de système de un système de sauvegarde, mais en gros, une fois qu'on est mort, on ne peut pas recharger. Et dès qu'on recharge une sauvegarde, elle est détruite. Donc, vraiment difficile et très très sympa.
À l'ancienne alors.
À l'ancienne. Et sinon, en jeu, en ce moment, depuis que.
Excuse-moi, c'est sur quelle plateforme Faster Than Light?
C'est un jeu indé. À l'origine, c'est un Kickstarter. Il est sur Steam notamment, mais il est
Windows.
Alors, oui, il est sur Windows. Je ne sais pas s'il est adapté sur sur Mac et je m'en fous un peu.
Je vais regarder.
Et Linux?
Linux avec Wine, de toute façon, t'es sûr de pouvoir y jouer. Surtout que c'est pas un jeu qui demande grand chose au niveau ressources. Donc. Et pour des jeux donc, de plateau, depuis que Dédé me l'a montré, je joue pas mal avec mes potes à Eaten by Zombie. Donc, Eaten by Zombie, c'est un deck building dans un monde de zombies. À l'origine, ça ressemble à un sous-dominion. Sauf que le thème est rigolo et au final ça a un peu plus de subtilité que prévu.
La partie des deck building, de savoir quelles cartes tu vas jeter, parce que à certains moments tu dois jeter des cartes.
Ouais.
Et c'est surtout ça.
Il y a pas mal de subtilité, surtout avec l'extension principale. On se retrouve vraiment à devoir faire des choix cornéliens et surtout. Il y a toute la première partie du jeu qui est lente où on crée son paquet et ensuite c'est la descente aux enfers. D'un coup, à partir du moment où on a fini une première fois le paquet de zombies, ça commence à devenir de plus en plus dur. C'est assez sympa. On a déjà réussi à le finir en coop et c'est pas facile. Jeu sympathique.
Alors, Faster Than Light se trouve sur Steam pour les plateformes Windows, Apple et Linux pour 10€, 9,99€. Et Eaten by Zombie, c'est un jeu de Max Holiday qui est illustré par Max Holiday et John Huerta. Mayday Games, 2011, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus pour 30 minutes. Et c'est combien tu l'as payé, toi? Ouais, comment tu te l'es pro? Ben voilà, maintenant il en a plein la bouche.
Alors, déjà, le jeu de base est à 4 joueurs. L'extension standalone est à 2 joueurs. Donc en mettant les deux ensemble, on peut jouer jusqu'à 6. Plus, il y a quelques extensions secondaires. Je crois que je me rappelle absolument plus des prix, je t'avoue. J'ai acheté le jeu de base en France parce qu'il est, il était disponible.
15€
jeu de base. Je crois que l'extension est à 9, en 10€. L'extension n'était pas trouvable en France et les extensions secondaires n'étaient pas trouvables en France. Je les ai achetées aux US. Pas compliqué. Le seul truc, c'est comme d'habitude, quand on achète aux US, pendant 3 semaines, on n'a absolument aucune nouvelle et on ne sait pas si le colis est perdu ou s'il est en cours d'acheminement.
Sinon, il faut aller à Essen. Moi, c'est là-bas que j'ai acheté mon exemplaire.
A priori, Max Holiday a dit qu'il y avait une nouvelle extension en cours.
Moi, j'ai bien aimé. C'était un truc que ça m'a... J'étais très agréablement surpris par justement la déconstruction de deck, même si j'aime pas les zombies. Dédé ?
Personne n'aime les zombies, c'est pour ça qu'il faut les tuer.
Ouais, c'est ça.
En n'oubliant pas de viser la tête.
Et puis tirer deux fois.
Voilà.
Et de faire du cardio aussi.
Et faire le cardio. Moi, j'ai joué cet été à Love Letter. J'avais déjà joué. Avec mes collègues, mais là j'ai joué avec des vrais joueurs, mon frère et sa copine qui eux ils font du Magic, donc ça réfléchit dur à chaque carte.
À Love Letter,
à Love Letter il y a deux cartes mais ça réfléchit dur.
Et il voit les combos que t'as pas
voilà.
Vu.
et c'est un jeu très très intéressant. Malgré qu'il n'y a que 16 cartes, on peut se dire, c'est pas beaucoup, mais c'est très riche en fait. Et sinon, j'ai joué à Mascarade.
Oui, dis-nous ce que tu en penses.
Ben, moi, ça m'a bien plu. C'est moitié identité secrète, moitié faut deviner la carte des autres, mais aussi bluffer. Donc, il y a une partie de bluff qui est sympa, quoi. Et Moi, j'ai bien aimé. Je n'ai pas fait beaucoup de parties, mais ça demande à être joué.
Donc Love Letter, c'est un jeu de Seiji Kanai pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros, un peu moins de 10 euros. C'est paru chez Ferti, je crois. C'est ça ? AEG.
C'est Philo, il me semble. Philo. Ouais. C'est Philosophia qui a fait la trad. C'est Philo.
Et Mascara, c'est un jeu de Bruno Feduti sorti il n'y a pas très longtemps chez Repose Prod pour 2 à 13 joueurs à partir de 10 ans et 30 minutes. Plain ?
Oui.
De quoi, qu'est-ce que tu veux ? De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, Plain, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ?
Est-ce que tu as préparé une chronique ? Ça, c'est bon. Alors, pour ce qui est des jeux de société, j'ai testé l'extension de Seasons.
Oui.
Qui est cool, oui. Parce que j'aime Seasons d'un amour immodéré. On n'a pas testé le truc avec les espèces d'événements aléatoires, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais pour ce que j'en ai testé et ce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup joué sur Board Game Arena, les nouvelles cartes sont chouettes et ça ne change pas la dynamique du jeu que j'aime bien.
C'est une extension qui ne rajoute pas de joueurs supplémentaires. 18 euros chez Libellude pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et plus pour une heure de partie. Si on ne joue pas avec des vieux.
Okay.
Tu ne dis pas ça pour Plain ?
Non.
Donc, d'accord. Et pour le jeu de rôle, donc, comme je le disais tout à l'heure, venez jouer avec nous à l'association.
Mais pourquoi vous manquez de rôlistes ?
Ben, on cherche toujours des rôlistes. Hein.
Mais pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sympa ?
Si, on est très sympa. Le souci, c'est que comme c'est une association et à Montreuil, c'est difficile de faire de la pub.
Pourquoi ?
Donc, il n'y a pas énormément de rôlistes à Montreuil, ou alors on ne les a pas tous attrapés. Donc, si vous voulez venir jouer, n'hésitez pas. Donc, je vous mettrai
ça
le...
s'attrape, les rôlistes ?
Oui, ça s'attrape. C'est comme tout, ça s'attrape.
Sur 4 et plus.
Ouais, il faut lancer les dés.
C'est ça. Donc voilà. Et pour les nouveautés de jeux de rôle, j'attends les Lames du Cardinal avec impatience. Ça devait sortir au mois de février, où c'était annoncé pour le début de l'année. Et on est à peu près au début de l'année, toujours.
Est-ce que les jeux de rôle sont toujours en retard ?
Ça, les jeux de rôle sont toujours en retard.
Pas plus que jeux de société, non ?
Ils devaient être édités.
Ah, ça, j'en sais rien, mais.
Est-ce qu'il faut te rappeler le Roll Through the Edges ? C'est pas ce rôle. C'est,
Le Roll for.
Roll for the Galaxy et. Et
Alien Artifact.
Ouais.
C'est pareil dans le jeu de société.
Péniblement. Est-ce qu'il faut péniblement qu'on te rappelle ces deux jeux de société ?
C'est une expérience douloureuse.
Et dans le Wargame, c'est encore pire aussi.
Alexis ?
Moi, j'ai découpé du carton hein, pour changer. Donc,
d'accord.
Moi, je vais tester des petits jeux en print and play. Du coup, je passe un petit coucou et un petit merci à Courju et à Didier 69 sur Twitter qui m'ont balancé pas mal de liens. Et puis, une fois que j'aurai imprimé tout ça et puis que j'aurai, si j'arrive à faire jouer mes parents, je vous ferai peut-être un petit topo sur ce que j'ai pu découvrir de sympathique. À faire soi-même.
D'accord. Et si vous êtes dans les environs de Chelles ou
Pas du tout. En fait, je pars à Caen.
Non, donc mais
si vous êtes à Chelles, c'est raté.
Mais si alors, ne parlons pas des semaines à venir, mais de toute façon,
après.
Je pense que tu auras le temps de revenir avant que
le podcast soit en ligne. Ouais, tu seras rentré. Hein.
Il faut que ça arrive au 1er septembre. Mais
il montait 4 heures de podcast.
L'idée, c'est de savoir s'il y a des joueurs dans l'ouest parisien. Tu t'en fous des joueurs ?
Non, il y a un club, il faut juste que j'arrive à y aller.
D'accord, ok.
Mais si vous avez envie de 10 minutes, même pas à 200 mètres de mon boulot. Il faut juste que j'arrive à négocier avec madame le vendredi soir.
Il faut que j'entre midi et deux.
C'est un vieux pieux. Par contre, si vous pouvez m'aider dans cette quête.
Il y a de l'arsenic, après il y a.
Je te l'enverrai, tu verras. Tu te débrouilleras avec elle.
T'as pas joué, toi, Olivier ?
Non.
Olivier, il a joué à bricolage.
Il
a pris du skill en Ikea.
J'ai pris du skill en plomberie, en électricité et en peinture.
En M6 déco The Board Game, c'est ça ?
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, bah écoutez,
il y a un concept.
Il y a un concept de jeu.
Merci énormément d'avoir participé à ce podcast.
Une idée à Krilin, il a.
Krilin qui a retourné dans ses lectures, mais lectures de jeux de rôle, de règles de jeu. On va vous retrouver très prochainement, puisque d'ici un mois, ce podcast sera en ligne à peu près au 1er septembre
2013.
On vous retrouvera dans vos chroniques lors de notre prochain numéro, qui sera un numéro enregistré normalement avec les Ludochons et qui aura pour thème les Gateway Games. Et voilà. Donc, avant de se quitter, tu veux parler ? Non. Est-ce que tu te rapproches ?
Il sent le micro, il sent beau.
Avant de se quitter, on vous rappelle l'adresse de notre site, podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les jeux qu'on a abordés ce soir.
On mettra tous les liens vers nos contributeurs.
Voilà, tout, si vous avez, si vous ne savez pas comment s'écrit des déchutes, vous allez sur le site et puis vous verrez.
On mettra une photo de vous, hein, vous êtes obligés.
N'oubliez pas qu'on a une page Facebook, qu'on a un Twitter, que vous pouvez mettre des commentaires à la fois sur le site et sur iTunes. Et puis surtout, parlez-nous à vos amis. Faites-nous écouter par tout le monde. Et n'hésitez pas, je parle sur lui comme ça.
Différentes bazingas pas. Justement sur tous ces aspects-là.
Et n'hésitez pas à nous faire un feedback sur ce qu'on a dit et sur ce que vous attendez de nous dans un proche avenir. Voilà, merci encore à tout le monde. Je suis fatigué en fait.
Il sait pas conclure.
Ça fait 4 heures et ça fait trop. À très bientôt et en attendant,
jouez bien.
Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur Androphone et iPhone et Android.
On y va ? Allons-y, un petit jingle et on y va. Normalement, on n'a pas de jingle, mais c'est pas grave.
Comment ça, on n'a pas de jingle ?
Bah non.
On a
toujours le même.
Non, mais t'inquiète.
Quarantaine de participation, c'est quasiment 10% de votre auditoire.
Je comprends aussi.
T'es pas obligé de dire de...
Mais ça, on va les garder.
Il y a un tas d'édions qui est quand même élevé.
Mais c'est quand même deux fois plus que l'auditoire Pazincast.
Voilà,
c'est l'épisode 2, oui.
Voilà, le concours de bite est fini. On va pouvoir passer au bref.
On fait les news ?
Ouais, on va faire les news. Bref, ça avance, mais on ne sait pas dans quel sens.
Tête coupée.
Tu viens de ruiner ta news.
C'est la conclusion.
Je crois que tu peux l'enlever du début jusqu'à la fin. Là,
ça sera pour le...
Non, j'arrive juste ce morceau.
Ça sera pour
le bêtisier. Le bêtisier. En fait, il va y avoir plus de trucs dans le bêtisier que...
Alors, je sais pas
non,
si
ça a permis, le HTML5, c'est parce qu'il a permis de porter toutes les vidéos porno sur
Ça c'est iOS. Autre chose. Ça c'est juste le. Ça c'est juste des formats de vidéo.
C'est le côté.
Tu mettras, tu couperas.
On est le jeudi 15 août.
Nous sommes le jeudi 15 août et vous
on
écoutez.
Pas, on est, on dit nous sommes.
Voilà pour les brèves. Alors attends, parce que je m'entends pas en fait. C'est ça qui est bizarre. Et
on reteste le micro.
Mais ça c'est l'âge. Hein.
Un, deux. Non, le micro.
C'est moi que j'entends pas en fait.
Oui, t'as branché ton casque ?
Mais c'est bien qu'on t'entende pas, non ?
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai pas l'impression non plus que.
En fait, on entend personne. On recommence à zéro.
Allô.
Proxy voilà. Jeu 47, deuxième.
T'as oublié d'appuyer voilà. Sur enregistrer.
Alors.
Vous savez qu'on l'a déjà fait, hein, de réenregistrer les épisodes.
Donc... Oui, au moins deux fois.
Quelques articles sur Gus & Co également.
Voilà. Multicarte, j'ai dit.
Et après ? On pose des questions ?
Bah enchaîne, bon sang. Tu vois, mais le problème, c'est que je fais des relances, mais ça suit pas, donc c'est pour ça qu'il faut que je coupe.
Hey, mais bon, t'as pas coupé.
C'est ça de prendre des professionnels.
Eh ouais.
Est-ce que t'as un a priori en fait sur le gros jeu ? Est-ce que
j'ai absolument aucun a priori. Je fais quand même beaucoup moins de jeux qui durent 4 heures qu'il y a quelques années.
Ça, c'est le couple, ça.
C'est le couple, c'est une question de temps. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps. Donc quand j'ai du temps, je fais les choses.
Ok. Mais un jeu de 30 minutes,
tu prends le temps pour faire des choses, tu veux dire. Ça peut... On va continuer ce premier podcast. On va continuer ce premier podcast.
Si t'en veux en anglais, je pourrais t'en filer en anglais.
On va continuer ce. On va continuer ce. On va continuer ce premier podcast de la.
Des joueurs.
On va continuer. Je vais déchirer Zombie 15, je pense.
Et on peut l'imprimer soi.
C'est de la merde.
Je peux te filer, j'ai tous les visuels.
On va continuer ce premier podcast de l'année avec un petit dé. Krilin.
Ah ouais, sale enculé.
On va continuer.
Attendez, on a un débat super important.